Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons donc commencer cette conférence qui aujourd'hui va davantage traiter des problématiques et des enjeux économiques relatifs aux taxis ruraux, départementaux, entre guillemets. Puisqu'hier, il y a déjà une conférence, certains d'entre vous y ont peut-être assisté, qui était davantage consacrée aux taxis dits hyperurbains. Donc centré davantage sur des problématiques grandes villes type Paris, Lyon, Marseille. Donc je vais vous présenter très rapidement les gens qui sont à cette tribune et qui vont donc animer, et je les en remercie, ce débat. Je citerai également quelques personnes également qui sont en salle et qui participeront, la tribune étant un petit peu juste pour faire tenir un trop grand nombre de personnes. Et ensuite, bien évidemment, après l'introduction, je dirais, et la mise en bouche et le panorama que chacun va essayer de faire sur les problématiques concernées, eh bien, au niveau de la salle, vous pourrez, tout un chacun, intervenir, poser des questions et éventuellement répondre à certains éléments qui auront été évoqués par les gens qui sont sur la tribune. Simplement, ce que je vous demanderai, c'est de laisser tous les gens de la tribune, dans un premier temps, s'exprimer parce que leur expérience est riche, importante, et qu'ils vont évoquer, à travers leurs propres expériences, un bon nombre de questions qui vous animent. Et ensuite, bien évidemment, on sera davantage, on évitera les répétitions et on sera davantage dans des échanges par rapport aux solutions éventuelles qui peuvent être envisagées eu égard aux problèmes soulevés. Donc, je vais commencer par monsieur Patrick Charles, qui est donc président de la FTI 24 et deuxième vice-président de la FNTI. À ses côtés, monsieur Yves Félix, qui est secrétaire général de la FTI 55. Ensuite, monsieur Didier Augrel. Alors, vous ne tenez pas compte de ce qu'il y a sur le panonceau. Il y a une petite erreur qui s'est glissée. Donc, monsieur Didier Augrel, qui est, je reprends, faut que je retrouve ma note, premier vice-président de la FNDT, pardonnez-moi. Monsieur Gérard Gabet, qui est président de la FDTDE 27. Monsieur Éric Conrad, qui est président de la FTI 57, et monsieur André Alogna, qui est président de la FTI 55. Donc, ce que je vous propose, et je vais commencer éventuellement, je dirais, par ordre alphabétique, c'est-à-dire demander à chacun de faire part un petit peu du panorama, de la situation, du constat par rapport à cette problématique de concurrence, des solutions éventuelles qui ont déjà été envisagées, voire qui ont été actées. Chaque intervenant pourra s'exprimer sur ce sujet. Et ensuite, de quoi, bien évidemment, eh bien, le débat pourra prendre toute son ampleur. Donc, je vais passer la parole à monsieur André Alogna, puis ensuite monsieur Conrad, monsieur Charles, monsieur Gabet, et on ira par monsieur Augrel, si je suis bien, l'ordre alphabétique.
Oui, bonjour. Donc,
est-ce que je peux vous demander de parler très près du micro pour que chacun vous entende bien ? Merci.
Tous les taxis ont la même réglementation, que ce soit au niveau des véhicules. Tous les taxis de France ont vraiment la même chose, c'est-à-dire une autorisation de stationner, des équipements réglementaires. Après, au niveau des chauffeurs, tous les chauffeurs ont la même capacité professionnelle, donc une carte pro, c'est-à-dire une honorabilité personnelle, un diplôme de CPCT. Quelle différence y a-t-il entre les taxis ruraux ou les taxis de ville, si ce n'est l'activité ? Donc maintenant, plus on s'éloigne plus notre activité est loin d'une ville, et plus différente elle est. Ceux qui sont vraiment dans des endroits très très ruraux ont un taux de transport médical beaucoup plus important. Automatiquement, on se retrouve que les problématiques des taxis ne sont pas les mêmes, ne sont pas ressenties pareilles selon le taxi que l'on est. Mon sentiment, c'est que nous sommes tous taxis, donc il faut avoir une solidarité totale au niveau du taxi, au niveau de notre profession, si on veut conserver notre activité, sachant que notre activité est grignotée par beaucoup de choses que l'on va voir.
Monsieur, vous, c'est une première introduction, effectivement. On va continuer avec monsieur Conrad.
Oui, eh bien, bonjour. Nous, dans les taxis ruraux, tout le monde regarde ce que l'autre fait. Dans les GIE, c'est la même chose. On sait tous se battre contre notre collègue taxi, mais on ne sait pas se battre au niveau national contre des gros trusts, contre des grosses sociétés, genre Veolia et tout ce qui va. Si les taxis étaient plus soudés, on pourrait se battre, on pourrait faire des appels d'offres. C'est ce qu'on a fait, nous, en Lorraine, avec mon collègue André. C'est de rassembler plusieurs départements, faire une fédération régionale avec l'Aube qui est ici là cet après-midi. Chacun regarde toujours l'autre, mais battez-vous contre des grosses boîtes qui nous prennent notre job. Il faut qu'on arrête. Voilà quoi. C'est tout le monde voit ce que le collègue taxi fait. Battez-vous, mais pour se battre, il faut être nombreux. Alors, tout le monde tire sur les fédés nationales, quelle que soit l'entité, on s'en fout. On fait tous le même job, et tout le monde s'est critiqué que les fédés ne vous défendent pas. Pour vous défendre, il faut être nombreux. On a manifesté en octobre sur la Lorraine, Champagne, Ardennes, Alsace. On a rassemblé 280 taxis sur 1000 véhicules. Et ce qui se passe, c'est que les 750 qui ne sont pas venus, voilà. Ils ne savent que critiquer pour un projet qui est sorti, c'est le référentiel commun du 27 mai 2010 sur les sorties d'hôpitaux. C'est pas grave, mais voilà, il faut que vous arrêtiez de critiquer votre collègue taxi, de dire qu'est-ce qu'il a fait comme course, comme recette. Il a fait 3 tours ce matin, il a fait 2 cet après-midi. Battez-vous contre des grosses boîtes et soyez tous ensemble. Voilà.
Alors effectivement, ça c'est une thématique qui a été on retrouve quelque chose qui a été déjà évoqué hier, c'est-à-dire cette nécessité d'union, cette nécessité de mobilisation qui, semble-t-il, est parfois insuffisante pour représenter être des interlocuteurs qui pèsent suffisamment par rapport à l'administration et par rapport aux interlocuteurs. Monsieur Charles, vous avez également la même analyse à ce niveau-là?
Oui, moi je suis dans un département essentiellement rural, puisque la plus grosse commune, c'est 30 000 habitants, donc on ne peut pas parler d'autre chose que de la ruralité. Le transport de malades assis est implanté comme dans de nombreux départements ruraux, et vous savez bien comme moi que si vous n'aviez pas cette convention signée, vous auriez des difficultés. Mais je pense aussi qu'il faut se battre pour récupérer les parts de marché que vous avez perdues tout au long de ces années et qui correspondent à des gens qui se sont installés dans notre profession et qui ne peuvent pas répondre à notre profession puisqu'ils n'ont aucun diplôme. Vous avez eu des examens, vous avez investi dans des autorisations de stationner et on est en train de vous les pourrir. Donc, si vous voulez faire quelque chose, il faut vraiment que vous veniez vers les syndicats nationaux ou même départementaux ou même régionaux pour que vous puissiez avoir plus de force pour aller traiter ces marchés que vous avez perdus à l'heure actuelle. Et là, aujourd'hui, ce que je voudrais, moi, c'est que vous compreniez bien que si on se réunit, ça sera pour gagner ces parts de marché contre des grosses fédérations qui nous enquiquinent la vie et qui nous pourrissent. Hein? À l'heure actuelle, vous avez des aides ménagères qui vous prennent le boulot. Elles n'ont aucun diplôme, elles n'ont aucune prétention de pouvoir faire du taxi. Mais par contre, elles ont un salaire. Vous, votre salaire, c'est les gens qui vous le fournissent. Si vous n'arrivez pas à regagner ces gens, vous n'aurez plus le travail nécessaire pour vivre. Et tous les ans, je me bats au tribunal de commerce pour des redressements judiciaires et des liquidations judiciaires. J'en ai marre d'être au tribunal de commerce, j'ai autre chose à faire. Je voudrais que les gens qui ont des difficultés viennent vers les syndicats pour qu'on puisse arrêter à temps ces gens qui vont mourir. Parce que quand vous allez au tribunal de commerce, on ne s'en remet pas. Il faut à tout prix que vous compreniez que on peut vous défendre. Mais si vous ne parlez pas, si vous restez dans votre coin, on n'arrivera à rien du tout. Hein? Et forcément, en France, les taxis ruraux sont quand même beaucoup plus nombreux que les taxis de ville. Il faut savoir que dans beaucoup de départements français, si vous avez des grosses communes, vous n'en avez pas beaucoup. Après, le taxi, il se retrouve livré à lui-même et il n'y a personne pour l'aider. Les maires nous balancent des autorisations de stationner dans des communes de moins de 200 habitants à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui va vivre un taxi avec moins de 200 habitants? Vous n'avez plus la convention pendant 2 ans quand vous vous installez. Essayez de voir si vous pouvez récupérer une autorisation de stationnement payante et là, vous aurez un début de travail. À vous après de le développer. Mais essayez de vous concentrer sur ça et de venir nous voir. On est là pour vous conseiller, pour aider les maires et les conseillers généraux pour leur dire, voilà, si vous faites ça, vous allez envoyer quelqu'un à la mort. Essayez de voir autrement. Mais il faut qu'on arrive à responsabiliser aussi les gens qui nous gouvernent. Hein ? On passe du temps, à l'heure actuelle, nous, Fédération Nationale, on passe du temps dans les ministères pour vous défendre tous. On ne défend pas que les gros employeurs de taxi. On défend toute la profession. Mais si vous n'êtes pas derrière nous, on ne pourra rien faire. Merci de m'avoir écouté.
Monsieur Félix, je vous passe la parole également pour que vous le fassiez part de votre expérience dans votre département.
Alors moi, je suis aussi un taxi rural et c'est vrai que depuis un an, là, j'ai perdu beaucoup de marché, notamment au Conseil Général, hein, par les grosses sociétés Vortex, Veolia et compagnie. Et ce qu'on aimerait bien faire en Meuse, au sein de la FTI 55, avec mon collègue André Alonia, c'est pouvoir créer un GIE, pouvoir se rassembler, hein, quel que soit l'organisme syndical, pour pouvoir répondre justement à la demande qui est faite au niveau du Conseil Général. Voilà. On essaye de se rassembler, hein, tous les artisans taxis. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on travaillait tous un peu de notre côté. Et depuis un an, là, on essaye de mettre en place justement un GIE pour pouvoir travailler ensemble et prendre des parts de marché au niveau du Conseil Général. Donc c'est vrai que c'est pas facile de fédérer les gens, hein, on s'en est rendu compte, hein, il y a chacun travaille un peu dans son petit coin, les gens sont pas encore conscients de ce qui va leur arriver, et justement on essaye de fédérer tous les artisans pour pouvoir attaquer le Conseil Général et prendre des parts de marché. Voilà, donc il faut vraiment se réunir, se rassembler, fédérer, quels que soient les syndicats, et se battre ensemble auprès des grosses organisations comme Veolia ou Vortex. Je pense qu'on en a la possibilité. Il faut pas craindre ces grosses sociétés. Si on est unis, je pense qu'on a notre part de marché à prendre.
Voilà. Ce que j'ai cru comprendre lorsque nous avons évoqué ces éléments en préparant cette conférence, c'est que au-delà des mots et au-delà des intentions, sont des choses possibles. C'est-à-dire que vous-même, Monsieur Charles également, et peut-être d'autres de ses collègues, vous avez réussi à reprendre des parts de marché. C'est pas du tout quelque chose d'impossible.
Alors, évidemment, sur la Dordogne, j'avais complètement cessé le transport d'enfants il y a 5 ans. Et c'est vrai que depuis que je suis revenu sur le marché, avec plusieurs collègues, bien sûr, puisqu'on ne peut pas aller tout seul au Conseil Général. On est plus fort quand on y va à plusieurs artisans. Et j'ai récupéré une grosse partie du transport Veolia. Hein ? On dit que c'est impossible, c'est pas vrai. Si on se bat, on peut le faire. Et cette année, je l'ai fait. Ça peut durer qu'un an. Peut-être que Veolia va rattaquer en diminuant les prix encore. Il faut savoir que vous avez des prix qui sont fixés par les départements. C'est les préfets qui vous signent vos arrêtés préfectoraux. Donc, moi, je vais discuter les prix dans mon département, puisque je suis président de fédération, avec l'autre fédération qui existe en Dordogne. Mais si on discute des prix et qu'après, on les casse pour travailler, c'est pas la peine. Hein ? Vous avez des charges à payer derrière. Arrêtez de faire des prix aux gens qui vous demandent de travailler pour rien. Vous en sortirez pas. Les charges, elles continueront à être du même calibre que ce que vous avez à l'heure actuelle. Sinon, en augmentation. On ne voit pas les charges baisser, hein. Donc, forcément, appliquez les tarifs préfectoraux pour avoir des parts de marché. mais allez-y en groupe.
C'est ça le maître mot, en fait. C'est l'union, c'est le rassemblement, oui. C'est d'intervenir en groupe.
Plus on dépose de dossiers groupés, plus on a des chances de prendre les parts de marché à ces grosses entreprises.
Là-dessus, je crois que Monsieur Gabet puis Monsieur Ogrel, vous partagez également ce point de vue et ce même type d'expérience.
Oui, bonjour, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Je me présente, donc je suis Gérard Gabet, je suis président de la Fédération départementale des taxis de l'Eure, un département rural, puisqu'un petit peu comme mon collègue de la Dordogne, la ville principale, Évreux, a environ 58 000 habitants. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je suis secrétaire de la Fédération française des taxis de province, auquel, bien sûr, notre organisation professionnelle est affiliée. Je ne vais pas vous parler de moi, parce que je suis pas là pour vous parler de mon entreprise. Je vais vous parler de mes adhérents et de ce qui se passe dans le département. Parce que je pense que un syndicat d'organisation professionnelle doit être au service de ses adhérents et de mettre en avant ce que souhaitent ses adhérents. Voilà. Pour planter le décor un petit peu, on va parler un petit peu de ce qui est notre activité en tant que taxi rural, par rapport au pourcentage de chaque possibilité de clientèle. Alors, on retrouve effectivement le transport assis professionnalisé, donc transport de malades assis anciennement, qui représente une part de marché importante. On retrouve le travail lié aux AOT, les autorités organisatrices de transport, notamment les conseils généraux, ce qui est le cas dans notre département. On retrouve aussi des possibilités de travail dans des associations handicapées, et puis ce que j'appellerais du taxi pur, c'est-à-dire le client qui a besoin de se déplacer parce qu'il n'a pas de moyens personnels pour aller soit à une consultation, soit faire des courses, etc. Donc ce que j'ai planté ce décor parce que je souhaiterais, comme on l'avait vu un petit peu ensemble, qu'on voit un petit peu quelles sont nos possibilités de travail, les différentes opportunités que vous avez, et puis comment on peut se défendre dans chaque catégorie, comment on peut faire évoluer, récupérer des parts de marché, contrer des organismes importants. Voilà, donc notamment, par exemple, dans le transport public, pour le transport scolaire, par exemple, notamment pour le TAP avec les caisses assurance maladie. Une remarque que font aussi mes collègues, quel que soit l'organisme professionnel, il est clair que dans un département, si une majorité d'entreprises taxi adhèrent à une organisation professionnelle, dans tous les cas, nous serons plus forts. Si vous venez à une réunion, par exemple, devant un président de conseil général et que vous expliquez que vous représentez 10 entreprises du département, on va vous écouter d'une oreille distraite. Si vous dites « je représente 80% des entreprises du département », là, on va vous écouter d'une autre oreille. Alors, croyez-moi, j'ai vécu l'expérience puisque nous avons évolué et maintenant nous sommes écoutés à la préfecture aussi, et aux caisses d'assurance maladie aussi. Alors, ça demande, bien sûr, aux représentants et aux bureaux de l'organisation professionnelle un minimum de travail, c'est-à-dire que les gens vont bien sûr adhérer si l'organisation professionnelle travaille pour eux, puisque nous sommes à leur service après tout. Et ça demande aussi un effort de la part des chefs d'entreprise, puisque moyennant une cotisation, je vous rappelle que vous pouvez la passer en charge, qu'une partie de cette cotisation va être déduite de vos charges, vous allez la récupérer en charge sociale que vous n'allez pas payer. Donc votre petite quote-part et surtout votre présence va pouvoir nous renforcer et faire que nous soyons plus puissants dans les discours. Alors il est clair que une réunion, ça se prépare, on va venir avec des arguments, des textes de loi, etc. On va pas venir avec un fusil, c'est clair. Hein, c'est pas tout comme ma position. Donc je fais le maximum pour que cela évolue, et cela évolue, et cela est possible d'évoluer. Notamment, on a évoqué le transport public. Dans notre département, par exemple, sur les 3 dernières années, nous sommes passés, on va dire, d'une configuration où nous n'avions aucun gros transporteur public dans le département. Et puis, tout d'un coup, ils sont arrivés. Et actuellement, il y en a 7 grosses entreprises dans le département. Et on voit que, dans un premier temps, ils ont cherché à nous casser le marché. en appliquant des tarifs très faibles et en essayant de nous décourager. Dans un deuxième temps, nous, on a essayé de les contrer en argumentant point par point là où on pouvait regagner du terrain. Et en trois années, alors pour recadrer un petit peu, la première année, nous étions 70% de part de marché taxi, 30% au niveau des transporteurs publics. La deuxième année, nous sommes passés à l'inverse, parce que là, ils ont vraiment cassé les prix, au mépris de leur, équilibre financier de leur entreprise, parce que quand on voit les prix pratiqués, et donc là, ils ont pris 70% de part de marché, nous 30%, les taxis. Et puis là, nous regagnons du terrain grâce à notre action sur le terrain. Nous avons regagné des parts de marché et nous sommes cette année, enfin l'année 2010-2011, à 47% exactement de parts de marché. Donc vous voyez, on a regagné du terrain, il y a des moyens de se battre, il y a des moyens d'imposer aux autres. Il faut négocier au niveau de nos interlocuteurs, le président du conseil général et son équipe dirigeante. Et notamment, c'est par ce fait qu'on peut amener les entreprises taxis à pouvoir accéder à un transport scolaire. En l'occurrence, bien, il faut éviter que cette AOT, le Conseil Général en l'occurrence, puisse proposer des lots trop importants qui ne sont pas accessibles à une très petite entreprise taxi, comprenant par exemple un seul véhicule. Voilà, il faut essayer de mettre, il faut imposer au Conseil Général nos avis, et je vois que nous sommes écoutés, puisque, comme je disais tout à l'heure, cette année, nous avons une réunion préparatoire, puisque nous allons rentrer dans la troisième phase de marché public, et seules les organisations professionnelles taxi ont été invitées. Il n'y a eu aucun représentant des grosses entreprises de transport, que je ne citerai pas, mais cela prouve que nous, on a notre mot à dire, et que, en étant pertinent, en essayant d'amener des remarques, des innovations, on peut arriver à regagner des parts de marché, et tout n'est pas perdu, mais il faut se battre, et il faut que les gens soient mobilisés, et il faut que vous nous souteniez en adhérant à un organisme professionnel. Ça, c'est très important. Voilà. Pour ce qui concerne les autres sujets, on va, je pense, en débattre peut-être petit peu plus tard. J'ai planté un petit peu le décor et puis notre animateur va reprendre la main pour...
Je vais passer la parole à Monsieur Augrel.
Bonjour à tous. Merci à tous d'être là. Donc, je pense que mes collègues ont déjà résumé pas mal de choses, mais bon, on est là pour aborder le thème de la concurrence. Donc, concurrence... Qui dit concurrence dit le mot fait peur. Bon, il y a la concurrence qui est loyale et saine, hein. La concurrence entre taxis, il n'y a pas de raison, on a tous le même tarif, mais s'il y en a qui peut travailler mieux que l'autre, c'est qu'il est meilleur, c'est qu'il fournit une meilleure prestation. Et il y a toute la concurrence dite déloyale, que sont donc les transporteurs, les shuttles, bon, les aides ménagères aussi, qui prennent une part du marché, et les véhicules de tourisme avec chauffeur, donc dont les portées sont... pour l'instant non mesurables, mais qui, je pense, dans les mois ou dans les années à venir, vont nous causer beaucoup de soucis. La concurrence, certes, il en faut, mais on assiste aujourd'hui au niveau du taxi à un déséquilibre qui se creuse, qui est de plus en plus important. Les différentes mesures gouvernementales font que l'écart se creuse, et depuis quelques années, les taxis voient leurs recettes fondre comme neige au soleil par l'émergence de nouveaux modes de transport. Bon, nous ne sommes pas sous les mêmes règles, nous sommes une profession réglementée. En 2008, nous sommes descendus dans la rue pour garder cette réglementation, pensant que celle-ci nous sauverait peut-être, et aujourd'hui on s'aperçoit que nous sommes de plus en plus réglementés, mais qu'autour de nous, tout le monde fait tout et n'importe quoi avec la bénédiction de l'État. Bon, beaucoup d'emplois précaires se créent avec les transporteurs. Donc rien que ça là-dessus, nous sommes en déséquilibre total. Ils n'ont pas les mêmes contraintes que nous. Si les titulaires de ces autorisations doivent jouir de bonne moralité, on s'aperçoit que leur personnel n'est pas formé. Certains ont peut-être des casiers judiciaires lourds. Donc on a vraiment un déséquilibre au niveau de la concurrence. Et il faudrait peut-être que nos petits mondes de taxi en prennent conscience et essayent d'aller tous sur le même chemin, d'essayer d'obtenir des réglementations spécifiques pour tous ces autres modes de transport.
Oui, dans la préparation de cette conférence, vous évoquiez aussi la discrimination et le caractère faux dans la problématique des appels d'offres.
Tout à fait. Donc les conseils généraux lancent des appels d'offres. On s'aperçoit aujourd'hui que les départements, un par un, perdent les transports d'enfants handicapés parce que les conseils généraux font des appels d'offres globales de transport. Or, on s'aperçoit aussi que certains départements arrivent à faire des lots par marché subséquent. Alors, bien souvent, ce sont des bases de dialogue. Mais il faut savoir aussi que les conseils généraux qui font des appels d'offres globales sont, en certaine sorte, dans l'illégalité, puisque ça s'apparente à la discrimination. Il y a abus de position dominante pour ces conseils généraux. Alors, effectivement, seules des organisations professionnelles fortes et représentatives peuvent faire fléchir. Mais aujourd'hui, donc, je vous parle, en janvier 2011, nous avons un moyen formidable de faire fléchir ces gens. C'est qu'au mois de mars, il y a les élections cantonales. 50% des sièges des conseils généraux sont à renouveler. C'est à nous, de par notre discours, de faire changer les choses. La sanction réelle, c'est le bulletin de vote. Il faut que les organisations professionnelles se rapprochent des conseils généraux et demandent à tous les candidats, donc puisqu'ils vont tous briguer la place, puisque le gâteau est bon, quels sont leurs objectifs par rapport au transport d'enfants handicapés et en tirer eux-mêmes les conclusions. Il faut savoir qu'un taxi prend en moyenne 7 clients par jour. Il reste 2 mois, donc calculés. 7 clients par jour sur 2 mois, ça fait un paquet de gens à convaincre de mettre tel ou tel bulletin dans l'urne. Je crois que pour conserver le transport d'enfants, c'est un moyen formidable aujourd'hui.
Très bien. Monsieur Gabet, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à me faire signe. Mais je rebondis un petit peu par rapport à ce que vient de dire Monsieur Ogrel. Donc une nécessité d'être nombreux et motivés, et ce que vous avez tous dit d'ailleurs. Mmh. Et vous nous avez dit, vous aviez eu des progrès sur votre département. Est-ce en partie et surtout grâce justement à un élargissement de vos adhérents?
Alors tout à fait. Plus nous sommes d'adhérents, comme je disais tout à l'heure, plus nous sommes représentatifs. Et on a des arguments par rapport... Alors si on veut reprendre, tout à l'heure j'avais planté le décor des différentes sources de revenus et de clientèle. Si on reparle du transport public de personnes, là effectivement on a notre mot à dire par le dialogue. On peut imposer, comme le disait mon collègue, imposer à des AOT comme les conseils généraux de fractionner les circuits, pour qu'au lieu d'avoir un lot qui fasse 30 circuits que seul un groupement d'intérêt général, c'est-à-dire une collectivité de taxis qui s'entendrait, pourrait postuler, ou un gros transporteur, eh bien là, l'avantage, c'est que chaque petit transporteur individuel, qui n'a par exemple qu'une autorisation de stationnement ou 2 autorisations de stationnement dans son entreprise, puisse accéder à ce marché. Et là, l'avantage, en morcelant comme ceci, tout le monde, nous les taxis, on reprend des parts de marché. Et sachez que parfois, il est plus coûteux pour une grosse entreprise de faire un petit circuit qui va faire 15-20 km. Pourquoi ? Parce qu'il n'aura pas un chauffeur auprès du point de départ de ce circuit. Alors que nous, notre grande force, les taxis, enfin en tout cas je vois dans mon département, c'est que nous avons un maillage parfait du département. Donc chaque entreprise est un petit point. Un petit point d'orgue, si je puis dire, c'est un ensemble qui va faire que on a quelque chose à apporter à ce conseil général et à ce transport public. Et au niveau des tarifs, ne vous leurrez pas, parce que si on regarde la concurrence, il faut regarder un petit peu comment eux ils travaillent et quels sont les avantages et les inconvénients par rapport aux charges. Alors eux, effectivement, ils ont une méthode de travail qui fait que ils vont attendre d'avoir la notification de l'attribution d'un circuit pour louer une voiture pour la période scolaire et employer un salarié pour la période scolaire, sachant que ce salarié il n'est pas payé pendant les vacances scolaires, bien sûr, on est d'accord. Alors que nous, à côté, nous avons un véhicule des charges sur 365 jours de l'année. Donc là, effectivement, vous allez me dire, il y a une différence de charge qui fait qu'ils peuvent proposer des prix inférieurs à nous. Mais souvent, ils emploient des salariés, on va dire, de manière presque à la limite de la légalité, je parle. Et on leur demande parfois, j'ai des cas précis, mais je ne vais pas vous citer de société, mais d'avancer le carburant du mois, qu'on leur rembourse parfois 1 mois et demi à 2 mois après. on leur demande d'avancer les jetons de lavage pour nettoyer la voiture, etc. Et de nombreuses démissions de salariés arrivent au cours de l'année scolaire, ce qui nous facilite le travail, puisque maintenant donc nous avons 3 années d'expérience dans notre département. Alors là, c'est un formidable atout pour nous, puisque nous, entreprise taxi, c'est notre gagne-pain en permanence et on essaye de prendre soin de ne jamais laisser un enfant traîner devant un établissement scolaire et d'oublier de le ramasser. Alors, et c'est ce qui arrive quand un salarié d'une grosse entreprise démissionne du jour au lendemain en disant il claque la porte et là tout d'un coup le soir, ils se retrouvent sans personne pour ramasser. Alors ça leur coûte très cher parce que souvent ils sont obligés de faire venir une voiture de plus loin avec un chauffeur et donc ça leur coûte des charges supplémentaires. Donc au bilan, on voit qu'au bout de 3 années, ils ont remonté leur prix et on arrive un petit peu presque dans notre fourchette de prix nous taxi. Voilà. Alors ça c'est intéressant, c'est un des moyens de lutter d'une petite un donc en fractionnant les lots pour qu'ils soient à la portée de chaque petite entreprise. Petit 2, justement, en essayant de mettre des bâtons dans les roues aussi à ces grosses entreprises, notamment leur demandant, en essayant d'exiger un minimum d'honorabilité de leurs chauffeurs, un minimum de formation aussi médicale, parce que nous avons une formation, au premier secours, nous allons dire. Eux, effectivement, on leur demande simplement une aptitude médicale. On leur demande pas, il n'y a pas de vérification de leur casier judiciaire, comme le disait mon collègue. Nous, on a une vérification de notre casier judiciaire, je vous le rappelle, au cas où vous l'oubliez. Donc ça, ce sont des arguments qu'il faut mettre en avant pour devant les autorités organisatrices de transport, en disant, vous voyez, nous, on vous garantit une honorabilité par la vérification de notre casier judiciaire. On vous garantit qu'on est formé au premier secours. Si à votre enfant il arrive quelque chose, on est capable de lui appliquer les gestes de premier secours. Ça aussi, c'est un point positif. Nous, en plus, c'est notre travail. On vous garantit qu'on fera le maximum pour ne pas laisser un enfant le matin chez lui ou à la porte de son établissement scolaire. Vous voyez, ça, ce sont des points sur lesquels on peut discuter. Et au niveau des tarifs, je vous assure, on arrive pratiquement maintenant dans la même fourchette. Sachez que dans notre département, chaque personne titulaire d'un agrément a le droit de demander dans son secteur les prix qui ont été appliqués sur les circuits, quoi. Donc ça veut dire qu'on va pas vous dire que c'est telle personne qui a eu tel circuit, mais on va vous dire à quel tarif il a été attribué. Comme ça, il y a un effort qu'on a imposé, nous, de transparence. Et ça permet de savoir où en sont, par exemple, les transporteurs publics par rapport à nous. Et c'est ce qui me permet de vous dire que finalement, malgré les écarts de charge, on arrive quand même à des tarifs dans une fourchette à peu près identique une fois qu'ils ont essayé de s'imposer. Parce qu'effectivement, la première année, leur technique, c'est de casser les prix. Alors là, nous, on a du mal. Si moi, j'essaye de motiver mes adhérents et les entreprises de mon département, la première année, je me souviens, pour aller travailler en moyenne à 1,05€ du kilomètre, je parle en trajet direct, en C. Là, effectivement, les gens, ils me regardent, à 1,05€ du kilomètre, nous, on n'est pas capable de dégager un salaire, quoi. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'aller travailler à ce tarif-là. Voilà. Mais néanmoins, il faut quand même occuper la place et la part du marché, parce que si on se dit, on se dégage complètement de ce sujet, on va plus être contacté, puis après, on va être mis à l'écart de ce transport public. Donc, on doit se battre. Et on a besoin de vous pour se battre.
Et par rapport à ça, pardonnez-moi de vous interrompre, mais, il y a un effet pervers, c'est que si vous n'y allez plus, si vous ne postulez plus, automatiquement, la société de transport, elle, en année 2, va pratiquer
les tarifs qu'elle, voilà, qu'elle convient. Si nous, les taxis, nous abandonnons cette part de marché, il est clair qu'après, les transporteurs publics auront la mise facile, quoi. C'est-à-dire ils pourront tranquillement réajuster leurs tarifs, qui sera peut-être parfois, on a eu des surprises, plus cher que nos tarifs, nos taxis, officiels préfectoraux.
Avant de passer la parole à quelqu'un qui vient de me la demander, là, je suppose, pour réagir sur le sujet, on va rester centré sur le sujet. Il y avait aussi on en a parlé, mais là vous pouvez vous exprimer comme vous le voulez tous, c'est sur la notion de qualité, puisque c'est pas le tout d'avoir un prix, Mais vous disiez qu'effectivement, il y a une région, je crois, où pendant un mois, il n'y avait pas eu de transport scolaire, il n'y a pas eu de ramassage scolaire, parce que l'entreprise était incapable d'assurer la prestation.
Voilà. Notre avantage à nous taxis, c'est qu'effectivement, on va pas prendre plusieurs lots, puisque, je vous le rappelle, nous n'avons droit par entreprise, en dehors de ceux qui ont des certificats de capacité de transport de voyageurs, nous n'avons droit qu'à une licence de transport intérieur par entreprise. Donc, effectivement, si nous occupons le terrain, nous avons peu de chances, enfin, je veux dire, sur un circuit donné, et en général, il faut essayer de travailler. Il faut aussi sortir, comme le disaient mes collègues, de cet esprit d'individualisme qui caractérise un peu le taxi. On a besoin de s'entraider. Si vous restez dans votre coin, si vous êtes seul et si vous n'entendez pas avec vos voisins, là, nous courons à notre perte. Voilà, il faut absolument, petit à petit, par le dialogue, par peut-être aussi des concessions, arriver à s'entendre. Parce que le jour, par exemple, si on reprend le transport public, le jour où vous avez un problème, un accident, une panne de voiture, et que vous n'êtes plus capable d'assurer, il va vous falloir le collègue à côté. Et si vous êtes en marge des autres, les autres collègues ne viendront pas vous aider. Et là, non seulement vous aurez perdu, mais la communauté des taxis aura perdu, puisque on va se mettre en porte-à-faux par rapport à la concurrence, les transporteurs publics. Voilà, ça c'est important.
En termes d'individualisme, Monsieur Grey, je crois que vous aviez, vous, une réflexion aussi sur la nécessité, de, notamment par rapport au conventionnement CPAM, d'avoir une action plus collective que ce qui s'est fait jusqu'à présent dans bon nombre de départements.
Oui, tout à fait, puisque on va en arriver au transport de malades assis, qui est un autre sujet préoccupant avec le rapport Essartier qui est sorti il y a quelques temps, donc, et les diverses mesures qui ont été prises. On s'oriente certainement vers une modification des conventions que nous avons signées dans nos différents départements. Donc conventions plus ou moins bonnes suivant les départements, suivant la représentativité des taxis, suivant si elles étaient en zone rurale ou en zone urbaine. Au jour d'aujourd'hui, on a un constat à faire, c'est que le transport de malades assis est un des principaux éléments de notre métier. L'individualité au niveau des négociations dans différentes caisses a fait que certains départements, par rapport à d'autres, y ont laissé beaucoup de plumes. Excusez-moi d'employer ces mots-là, mais c'est la vérité. Donc, il faudrait peut-être réfléchir à avoir une démarche plutôt positive et commune. C'est-à-dire que dans chaque département, il faudrait que les taxis pensent à essayer de s'organiser d'une seule et même voie, ou même s'il existe différentes organisations professionnelles, qu'elles puissent se concerter et avancer d'une seule voie pour négocier toutes ces choses-là.
Dans ce cadre-là, Monsieur Conrad, vous avez une expérience tout à fait récente et positive, puisque vous aviez dit qu'au-delà des particularités des différentes fédérations, dans votre département ou avec les départements périphériques, vous aviez réussi à faire bouger parce que vous étiez unis dans l'action.
Voilà, donc juste deux mots sur le référentiel commun. Pour ceux qui sont au courant, c'est les sorties d'hôpitaux que l'on risquerait de perdre au niveau national, et je le précise. Donc ça, c'est sorti le 27 mai 2010. On a su en octobre, fin septembre, que c'était un projet. Alors sachez que tous les projets en France, quand ils font un essai sur une autoroute pour une vitesse limitée, tout le monde dit c'est un essai, 6 mois plus tard c'est fait partout. Donc sachez quand même que nous, en Lorraine, Champagne-Ardenne et l'Alsace, on a rassemblé depuis le 29 octobre plusieurs manifestations sur la Moselle, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, et on est tous partis au Parlement sur Strasbourg. Certains départements, dont un que je vais féliciter particulièrement, qui est dans la salle, c'est la FTI 10, Dominique Michaud, qui a fait 400 kilomètres pour venir manifester. 400 allées, ça fait 400 retours. Et il n'a pas dit « j'ai du boulot ». Donc, sur 1000 taxis, on était 250. Alors, si vous trouvez que c'est bien, tant mieux. Moi, je dis « c'est nul ». Mais bon, voilà. Après, on en était dans le Grand Est, parce qu'on est soudés, on est des gens... on se connaît quasiment tous, au moins tous les présidents de notre fédé. On a tenté de rassembler d'autres fédérations qui ont refusé catégoriquement, qui ont dit nous on négocie. Qu'est-ce qu'ils ont négocié? Rien du tout. La preuve, c'est que dans l'Est, ça commence. À Nîmes, c'est fait depuis le mois d'octobre. Si vous allez sur Internet et que vous tapez Taxi Nîmes hospitalier, vous allez voir, ils n'ont plus aucune sortie d'hôpitaux. Ce sont les ambulanciers qui le font. Ne vous voyez pas la face. Tous les ambulanciers qui font les sorties d'hôpitaux laissent leur carte. Votre malade, il est parti, il est parti. Voilà. Donc, c'est l'expérience qu'on a. 250 taxis sur 1000 et dont l'Aube qui est venu avec 10 véhicules à 400 km. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Et je voudrais juste passer un message à tous les présidents nationaux des Fédés, dont le mien, qu'il faudrait qu'ils engueulent leurs présidents départementaux et qu'ils donnent leurs directives. Je pense qu'il faudrait que les présidents arrêtent de faire ce qu'ils veulent dans leur département. Ils sont présidents de leur département, mais ils sont tous affiliés à une fédé nationale avec un président. Et si tout le monde pouvait s'entendre, et c'est le mot d'ordre de tout le monde, je pense, on est tous d'accord, on pourrait faire bouger beaucoup de choses. Mais plus vous allez laisser passer le temps et dire « Non, moi, je n'y vais pas, je travaille, j'ai du boulot », c'est bien, vous bossez, profitez-en. Pour l'instant, c'est ça. Je ne pense pas qu'il faille noircir le tableau. Mais bon, sachez que si ça sort sur ce sujet-là, donc sur ce référentiel commun, on n'est pas, comment dire, à l'abri d'autres sujets bientôt. Et certainement plus graves pour tous les taxis de France, hein. Je vous le précise quand même. Voilà.
Monsieur Gabin, vous vouliez compléter?
Oui, alors pour en revenir à la problématique du TAP, effectivement, un rapport au niveau national était sorti au mois de mai 2010. Et ce rapport ne nous mettait pas du tout en avant puisque nous n'existions pas sur ce rapport, puisque nous sommes transporteurs non sanitaires. En l'occurrence, un deuxième rapport est sorti de mémoire en septembre 2010, qui s'appelle le rapport Essartier, et là qui a pris en compte notre activité de transport non sanitaire. Notamment, c'est un rapport qui me paraît assez juste dans son objectivité. Voilà. Alors, ne nous leurrons pas non plus, on a des moyens de combattre, effectivement, la manifestation est un des moyens de combattre, mais la manifestation aussi est un moyen de mettre l'opinion politique de notre côté. Donc, soit nous faisons des manifestations, et si les gens ne sont directement pas concernés, on va avoir du mal, effectivement, à mobiliser l'opinion publique pour nous aider, soit nous intervenons d'une façon différente. Par exemple, en activant les pouvoirs politiques. N'oubliez pas que nous avons des députés qui sont à l'Assemblée nationale. En activant ces députés, nous pouvons faire retirer des amendements, notamment l'amendement numéro 531 de la loi de la sécurité sociale qui a été retiré et qui aurait permis la mise en place dans toutes les structures hospitalières de ces plateformes de transport. Ensuite, il faut se battre, mais il faut pas en avoir peur, puisque les grosses, je veux dire par là, il faut rester motivé, puisque les grosses structures d'ambulance utilisent déjà, on va dire, par des moyens plus ou moins légaux, pour essayer d'avoir le monopole des entrées et des sorties d'hospitalisation. Donc ça, c'est un sujet. Et moi, je vous dirais, des entreprises qui travaillent bien, les grosses entreprises d'ambulance sont nos meilleurs fournisseurs de clients parce que souvent ils négligent leur clientèle, parce que quand vous avez des entreprises avec 40-45 employés, forcément dans le tas il y a des gens qui sont plus ou moins agréables, la prise en charge, l'accueil, vous taxi, vous êtes indépendant, vous allez défendre votre beefsteak, vous allez accueillir votre clientèle en sortant, en ouvrant la porte, en vous présentant, en disant bonjour, en échangeant quelques mots. Ça existe très peu dans le monde des ambulanciers. Il y en a, bien sûr, mais il y en a très peu si vous regardez autour de vous. Donc là, nous avons un atout à jouer. Et moi, je n'ai pas honte de le dire. Mon meilleur fournisseur de clients, c'est mon principal concurrent, c'est un gros ambulancier. Et une fois que je récupère les clients, ils me lâchent plus. Voilà. Alors c'est à nous aussi de jouer le côté qualité avec l'accueil, etc. Alors oui, on risque de perdre momentanément, et c'est déjà le cas. Nous n'avons pas de structure, de plateforme dans notre département actuellement, mais nous avons déjà en place ces grosses entreprises. qui vont, par des petits cadeaux, je dirais, aller voir les secrétaires des différents services hospitaliers pour les, on va dire, les solliciter et pour que ces secrétaires appellent cette grosse entreprise d'ambulance. Mais derrière, nous avons notre mot à jouer. Parce que si vous, vous assurez derrière un service de qualité, vous allez les récupérer, ces clients. Alors là, effectivement, il faut qu'on se batte pour qu'au niveau national, ces établissements pilotes, puisque tel est le terme, il y a des établissements qui vont être pilotes dans certains départements.
Ouais, 5 régions.
Pour tester dans des régions, pour tester ce type de fonctionnement. Mais là, on a notre mot à jouer. Je vais vous donner un autre exemple. On va sortir du TAP et dans un autre domaine, concurrence, nous avons le transport à la demande qui avait été mis en place par les conseils généraux. Nous, organisation professionnelle, nous avons dit de toute façon, vous allez mettre en place un véhicule, un salarié, avec un circuit précis, et ça va vous coûter très cher. Et attention, quand on mobilise là les gens et la population, notamment auprès, pas très loin des élections, quand il s'agit de leur denier public, là les gens, croyez-moi, vous allez les mobiliser. Et là, on a fait apparaître les chiffres. À tel point que dans 7 cantons, il y a eu des essais dans notre département de mise à la disposition de véhicules du conseil général avec salariés du conseil général. Donc on appelle ça le transport à la demande. Et on a demandé un bilan en fin d'année. Ça leur a coûté tellement cher que on a, par notre pression et par le fait du coût de ce transport à la demande, il a été purement et simplement abandonné et revenu dans le portefeuille des taxis. Alors, vous voyez, des petites victoires comme ça, on peut en avoir, il faut se mobiliser, il faut argumenter, il faut trouver des solutions par notre professionnalisme, par notre accueil de la clientèle, on pourra contrer toujours en se battant auprès des gens responsables, on pourra arriver à contrer. Et aussi, il faut pas hésiter à ce qu'on se serve de tout ce qui est à notre portée, c'est-à-dire les députés, les sénateurs. N'oubliez pas une loi, bien sûr, elle est votée à l'Assemblée nationale. Ensuite, elle passe dans ce qu'on appelle la navette, c'est-à-dire que cette loi va être présentée aux sénateurs. Là aussi, ils ont leur mot à dire. Ensuite, elle revient éventuellement pour correctif. Donc là, on peut agir aussi. On a des moyens de pression. Voilà. Donc, je suis, moi, pour essayer d'appliquer en premier tout ce qui est moyens juridiques. J'ai demandé au niveau de ma fédération nationale l'intervention d'un avocat pour la convention TAP. Et nous avons fait une injonction. Même si mes partenaires d'autres organismes professionnels m'avaient promis de participer et n'ont pas participé, mais c'est un moyen juridique efficace, croyez-moi. Et grâce à cette injonction, on a pu modifier notre convention, on a pu avoir quelque chose qui nous intéressait. Alors même s'il convient pas à tout le monde, même s'il a des défauts, on est là pour représenter nos adhérents et faut essayer d'aller dans le sens où nos adhérents veulent nous emmener pour voir leur intérêt économique, leur intérêt par rapport à la concurrence.
Au-delà des députés et des sénateurs, qui sont particulièrement importants, et puis des moyens juridiques, effectivement, qui existent et qu'il ne faut pas négliger, on est une société qui devient de plus en plus juridique. Est-ce que, au niveau des différentes fédérations que vous représentez, ou même en tant que représentant de groupements, de GIE, etc., vous avez réfléchi, vous avez déjà, mise en place des actions de communication et notamment vis-à-vis de la clientèle. Parce que M. Ogrel le disait fort justement, si vous calculez le nombre de clients que vous avez par jour dans la perspective de l'échéance de 2011 et ensuite de 2012, dont on parle déjà un petit peu trop à mon avis, est-ce que vis-à-vis des justement les appuis que vous pourriez avoir auprès de votre clientèle, là il y a des pistes de réflexion, des actions qui ont été entreprises ou qui vont l'être?
Alors, si je peux me permettre de continuer à répondre, je trouve l'idée de mon collègue intéressante, bien sûr, et nous avons déjà essayé de pratiquer cette méthode. Alors, notamment, par exemple, pour rappeler à notre clientèle, taxi pur, les modalités de fonctionnement d'un taxi. Alors, j'entends par là par rapport aux transporteurs publics ou aux navettes, puisque les navettes et les transporteurs publics travaillent au tarif à la personne et que nous travaillons au tarif au kilomètre. Alors, il est clair, par exemple, dans mon département, je suis pas très loin des aéroports parisiens, une centaine de kilomètres, un peu plus. Alors, il est simple d'argumenter. Un couple qui part en voyage, deux personnes, pour eux, le taxi, ça va coûter trop cher. Ils ont intérêt de prendre une navette. Donc là, pas la peine d'insister. Mais une famille, un couple avec deux enfants, quatre personnes, là, la navette, vous la payez à la personne. Ça vous revient plus cher que de prendre un taxi. Donc ça, c'est le genre d'argument qu'il faut faire passer à la clientèle. Et par ces arguments, on peut récupérer des parts de marché et récupérer des clients. Et en plus, si ces gens-là, ils ont été satisfaits, parce que je vous rappelle que les navettes, c'est un circuit, par exemple. Donc il va y avoir, pour rentabiliser leur véhicule, vu les prix qu'ils pratiquent, il faut qu'ils remplissent leur véhicule, ou du moins qu'il y ait un certain taux de remplissage. C'est le principe d'un transport en commun. Là aussi, on a notre argument à jouer, parce que nous, on est précis. On vous dit, monsieur, on vient vous chercher devant chez vous à telle heure, et monsieur, on sera à l'aéroport à telle heure pour vous récupérer. Monsieur ou madame, excusez-moi. Vous voyez, on a un argument de poids. Si vous êtes ponctuel, poli, courtois, à l'heure, ça c'est les éléments de base. Une navette, elle va faire un ramassage. Donc, les gens, effectivement, il y a des gens qui sont pas pressés, qui vont prendre des navettes. Mais si ces gens, comme je vous disais, il s'agit d'une famille, si ces clients, c'est une famille de 4, 5, 6 personnes, ça m'est arrivé, eh bien là, vous avez un argument à jouer et des parts de marché à récupérer. Et puis si vous avez été suffisamment convaincant, eh bien peut-être que ce monsieur, peut-être qu'il s'agit d'un VRP ou peut-être qu'il s'agit d'un directeur commercial d'une entreprise qui aura besoin d'aller à l'étranger et il va vous rappeler. Il va pas faire appel à la navette. Donc là, on a un atout à jouer, d'accord? De même que pour que je le disais tout à l'heure pour le TAP, hein. Ça, il faut en permanence jouer là-dessus. Voilà.
Est-ce que d'autres personnes à la tribune ont des expériences ou des avis sur ce sujet? Puis ensuite, on va peut-être faire circuler le micro dans la salle si
donc
une remarque.
Ah, mais je pense surtout que vous devez vous remettre en question régulièrement. Parce que les acquis ne sont pas acquis à vie. Et si vous voulez conserver vos acquis, remettez-vous en question. Parce que après, on tombe dans la routine. Et la routine, c'est ce qu'il y a de plus mauvais pour notre métier. Hein? Donc, surtout, soyez vigilants de ce côté-là. Et prenez soin de votre clientèle. Parce que dès qu'elle est partie, elle est irrécupérable. Donc, restez bien vigilants. Et faites le nécessaire pour que la clientèle ne parte pas. On sait très bien qu'à l'heure actuelle, le client pur taxi diminue. Nos parts de marché sur ces déplacements diminuent puisque nous avons des concurrences telles le transport à la demande, les aides ménagères et consorts qui nous ont pris ces parts de marché. Tentez de les récupérer au plus vite parce qu'une fois qu'elles seront perdues, ça sera détruit pour vous. Donc, soyez vigilants.
Monsieur, vous aviez une question, enfin, sauf si vous avez. Ouais. Voilà, je vais vous laisser intervenir, ouais. Après on passera. Ouais.
Je souhaitais faire une remarque au sujet de nos députés, de nos administrations, qui, quand ils nous reçoivent, nous font comprendre gentiment, et c'est pour ça que je ne suis pas tellement d'accord avec mon collègue, mais bon. Lorsque l'on rencontre des députés, des maires ou des choses comme ça, ils enregistrent nos doléances. Ça veut dire, merci monsieur, j'ai pris votre feuille, je l'ai bien classée, tout va bien, au revoir. Moi, j'aurai mon salaire, je vais prendre 4000 euros par mois, ce n'est pas mon problème. Alors, que l'on négocie d'abord avec eux par politesse, moi je veux bien. Mais à un moment, il faut qu'on arrête de nous enfumer et de nous faire croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ces personnes, ce sont des politiques, ce sont des administratifs, ce sont des fonctionnaires, c'est pas péjoratif. Mais dialoguer, ça va bien, quoi. Je veux dire, tout le monde nous écoute. Mais voilà, c'est tout. Ils nous écoutent. Et une fois qu'on est sorti de leur bureau, voilà, allez. Merci.
Monsieur Ouvray, je crois que sur le sujet, vous aviez, je passerai après la parole, monsieur Gabet, vous aviez, vous, une analyse encore plus, qui conforte cela, c'est-à-dire que, en fait, pour pouvoir résister, pour pouvoir déboucher sur des situations concurrentielles plus stables et plus équitables, c'était des nécessités de modifications législatives. Donc, avec vraiment la, la nécessité d'un rapport de force très important vis-à-vis des pouvoirs publics.
Tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, bon, on assiste à la politique gouvernementale qui est divisée pour mieux régner. Si les organisations professionnelles existantes, et là je lance un appel aux autres fédérations, pouvaient déjà se réunir autour d'une table pour définir une stratégie et exiger des pouvoirs publics un moratoire sur le transport sur le système, donc des acteurs du transport de moins de 10 places, exiger qu'on aille au moins une base de réglementation commune. Ce serait déjà une belle avancée et ça nous en retirerait une belle épine du pied. Je pense que c'est l'avenir est au rapprochement de tous. L'avenir est à faire imposer notre voix au gouvernement, quitte à faire une mobilisation massive. Mais la rue, c'est le dernier bout de la chaîne. Il faut avant quand même tendre la main au gouvernement, il faut exiger un moratoire sur le transport de personnes de moins de 10 places pour qu'on ait au moins des bases communes avec tous les acteurs du transport.
C'est effectivement quelque chose de... Monsieur Gavet, vous pouvez applaudir.
J'approuve effectivement totalement la démarche de mon collègue. Moi, je pense qu'on a notre mot à dire et surtout en faisant travailler justement tous les gens que nous avons élus. Alors, je voudrais aussi parler d'une petite chose. On a aussi, on a un manque de communication dans notre profession par rapport à la clientèle. Alors, si on parle par rapport au taxi, il faudrait que par des campagnes, journaux, médias, on explique notre profession, les avantages que pourraient avoir les clients à prendre un taxi par rapport à prendre un transporteur public. Ça serait important. Au niveau du TAP, là, une autre solution possible. Dans la loi, il est prévu que chaque patient a le droit de choisir son transporteur, comme il a le droit de choisir son médecin spécialiste ou son médecin. Donc ça, c'est une chose que les gens ne connaissent pas. Et ça, il faudrait le diffuser, communiquer aux gens. Parce que à partir du moment où les gens ils sauront qu'ils ont le choix, parce que souvent ils ne le savent pas et souvent ils ne connaissent pas leurs droits, et je pense que nous avons notre mot à jouer en expliquant justement à notre clientèle, quelle qu'elle soit, à titre taxi pur, à titre TAP, les avantages et que l'on peut leur amener. Voilà, ça c'est une chose, parce qu'effectivement l'individualisme, chacun communique dans son coin, c'est pas bon. Il faudrait que là on a une campagne d'information à faire pour regagner du terrain sur ces différents sujets. Et ça me paraît très important.
D'autant plus vous disiez que certaines structures imposaient quasiment ou ne donnaient pas le choix aux malades en disant aux patients, bah écoutez, c'est comme ça ou sinon c'est on s'occupe pas de vous.
C'est une
expérience.
Ces plateformes qui sont mises en place, notamment notre collègue qui citait un département là. Là, on est dans le cadre d'une discrimination du droit au travail et là, on a une action à faire, voilà. Mais on peut contrer cette action par l'information aux clients. En lui disant que, en lui expliquant comment cela fonctionne, quels sont ses droits, et qu'il a le libre choix et le libre arbitre. Ça me paraît important.
Monsieur Conrad,
une petite remarque sur les sorties d'hôpitaux. Donc, les personnes qui sortent d'hôpitaux d'hospitalisation, je précise, elles ont quel âge? Elles sont certainement âgées. Enfin, âgés 65, 70, 80 ans, sans être péjoratif. Toutes les personnes plus jeunes, elles se débrouillent bien souvent pour rentrer. Le mari, le fils, l'oncle ou le cousin. Est-ce qu'une personne qui a 70, 75, 80, 85 ans va chercher à aller contre le médecin qui a prescrit son retour? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Malade, lui, ce qu'il veut, ça fait 3 semaines qu'il est là, il veut rentrer chez lui. Et si le médecin, monsieur, vous allez rentrer avec une navette à 2, 3, voire 4 malades et faire un parcours de 2, 3 heures, il le fera. Sinon, il faudra qu'il se débrouille pour rentrer. Est-ce que vous avez une solution à ça?
Alors, je suis d'accord. La première fois, il le fera peut-être. Mais la deuxième fois, il va dire, mais l'ambulancier, là, il m'a fait un petit voyage à 3 personnes, voire 4 personnes, parce que c'est pas prévu par leur convention. Dans la voiture, le transport simultané, c'est jusqu'à 3, trois personnes, hein, on est d'accord.
25% à 2 et 40 sur les 3.
Alors, on est bien d'accord, pas 4, et j'ai bien dit 4. Donc, imaginez que, et ça arrive, et je le vois parfois dans des hôpitaux, que vous voyez un véhicule sanitaire léger partir avec 4 personnes pour un petit circuit de 2 heures pour ramener tout le monde à la maison. Effectivement, la personne âgée, le premier coup, elle va se dire, elle est fatiguée, elle sort d'une opération ou d'une hospitalisation, elle va pas réagir. Mais la deuxième fois, elle va réagir, et une fois qu'elle a mis les pieds dans une entreprise de taxi, là, vous avez votre mot à jouer, et c'est là qu'il faut la retenir. Alors, je suis d'accord que les gens qui sont fatigués, qui sortiront d'une hospitalisation, sur le coup, ils vont pas réfléchir. Mais vous, derrière, si vous arrivez à récupérer la clientèle, imaginez, par exemple, notre travail, on a beaucoup de patients qui sont traités dans le domaine de l'oncologie. La première fois, ils ont été opérés. Si derrière, il y a une suite de transports itératifs, par exemple, ou de transports en série, pour soit de la chimiothérapie, soit de la radiothérapie. Si vous avez raté la sortie d'hospitalisation, mais que vous récupérez derrière 40 transports, par exemple, pour une radiothérapie, ça vaut quand même le coup de se débattre et d'essayer d'être le plus performant possible par rapport à la clientèle. Parce que il y a pas la qualité de service souvent dans les grosses entreprises. On va dire que si je regarde un petit peu comment les grosses entreprises fonctionnent, on va dire qu'il y a 30% du personnel ou 40% du personnel qui essaye de discuter avec le client, de s'intéresser. Vous, taxi rural, vous connaissez vos gens qui vivent dans votre village, parce que si vous travaillez bien, forcément dans toutes les familles, un jour vous allez transporter le père, le grand-père, le fils, pour une raison X ou Y. Et si on a une bonne opinion de vous, la clientèle, vous allez la récupérer. Ça, c'est très clair. Alors effectivement, faut qu'on se batte contre ces plateformes, mais la concurrence, elle existe. Cette appréciation des sorties d'hospitalisation, ça existe déjà, comme je le disais, par des moyens, petits cadeaux, de sous-table, etc., qu'on trouve au niveau des secrétariats. C'est déjà en place. Donc on a moyen de se battre, là. Avec de la communication, on peut les contrer. Et on peut montrer au gouvernement qui va essayer... Il est clair que dans la loi de financement sécurité sociale 2011, cet amendement a disparu. Il est clair qu'on va peut-être essayer de nous le remettre dans la loi de financement sécurité sociale 2012, suivant ce qu'aura donné les établissements pilotes. Mais nous, on a peut-être des moyens aussi de faire fléchir cette opinion de nos dirigeants et d'éviter justement qu'on en arrive là. À nous de tirer notre carte du jeu et de faire changer la donne.
Monsieur Alaya, vous souhaitiez intervenir.
Permettez-moi de ne pas être d'accord.
Mais c'est toute la richesse du débat. Vous êtes tout à fait autorisé à ne pas l'être.
Nous sommes des professionnels du transport assis. C'est reconnu. Nous sommes des taxis. On ne parle pas du transport couché, donc transport d'ambulancier, c'est pas notre métier. Nous sommes des professionnels du transport assis. De sources officielles, nous faisons 57% du transport médical assis, du TAP. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit récupérer des marchés qui partiraient alors que nous faisons notre travail d'une façon consciencieuse. La preuve, c'est que nous sommes choisis. Maintenant, une personne qui sort de l'hôpital ou qui a besoin d'un transport assis peut choisir un ambulancier, peut choisir un taxi. Si une bonne majorité choisit des taxis, c'est parce que le service est supérieur. Automatiquement, il n'y a pas de raison de nous enlever un travail que l'on fait d'une façon consciencieuse et choisi par les personnes. Donc, à mon avis, le transport médical assis, tant qu'il est effectué d'une façon comme il faut, il n'y a aucune raison de nous enlever. Alors, soit on commence par dire, on va nous enlever la sortie d'hôpital parce que vous n'avez pas de droit sur un patient. Après, on nous parle de prescriptions qui sont faites par les services hospitaliers, donc sous-entendu les dialyses, les rayons, ça veut rien dire. On fait notre travail comme il faut, à moins qu'on ait quelque chose à nous reprocher, on continue de le faire, et on n'a pas besoin de recommander, de récupérer des clients que nous transportons tous les jours quand nous faisons des petites courses, parce que maintenant, au niveau d'une hospitalisation, c'est pas nous qui devons faire cette course-là. Personnellement, je ne pense pas que ce soit normal.
Monsieur Gavet, je pense qu'il y a une incompréhension là, entre les deux propos. Ouais, mais ouais. Vous allez participer à l'éclaircir.
D'accord. Donc, ce que je voulais signaler, c'est que mes prédécesseurs, les anciens, se sont battus il y a quelques années avant la mise en place des véhicules sanitaires légers, et que à ce moment-là, effectivement, si les organisations professionnelles en place avaient lutté d'un commun accord pour empêcher la sortie de ce décret qui a mis en place les véhicules sanitaires légers, eh bien déjà nous n'en serions pas là. Alors ça, c'est le premier point que je voulais vérifier, puisque au moment où nous on a crié au loup, la Fédération française des taxis de province, les autres fédérations n'y ont pas cru. Voilà. Alors déjà, là il y avait un souci, quoi. Effectivement, il faut qu'on s'unisse dans ce combat, mais je pense qu'on peut s'unir dans ce combat, les fédérations représentatives, pardon à mon collègue de droite. Et je pense qu'on peut s'unir dans ce combat et puis montrer que, eh bien, nous avons notre mot à jouer et que nous avons notre avenir à défendre et qu'on peut, sans passer par la force, mais passer par la force, j'entends manifestation, blocage. Pour moi, ça doit être un élément de dernier recours, comme ça a été le cas, par exemple, pour le protocole d'accord en février 2008. Mais avant, je pense qu'on a des atouts à jouer et des atouts à faire jouer. Alors, je suis d'accord que là, au jour d'aujourd'hui, le TAP, il est partagé. Je vois dans notre département à peu près à 53% et 47% pour les véhicules sanitaires légers. Mais les deux systèmes sont en place. On est obligé de compter avec les véhicules sanitaires légers puisque nous, organisations professionnelles, on les a laissés s'installer. Ça, c'est une de nos erreurs. Et maintenant, il faut essayer de faire au mieux pour conserver nos parts de marché.
Monsieur Aubrel, je vous passe la parole. Et ensuite, il nous reste une trentaine de minutes. Oui. Donc, on fera circuler le micro dans la salle.
Merci. Alors, donc comme vient de dire mon collègue, il fut une époque où nous avons laissé installer les VSL. Donc, aujourd'hui, ne laissons pas s'installer les transporteurs. Sinon demain c'est notre mort. Donc seul un discours commun peut arranger les choses. Donc voilà.
Si monsieur, je vais vous passer la parole. Je vous demande juste de vous présenter et une question concise. Voilà, merci.
Donc voilà, taxi en Alsace. J'ai juste une question donc à vous poser. Je rejoins bien le monsieur Gabet. En ce qui concerne la communication, c'est très important, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un contrat entre les hôpitaux et certaines sociétés de taxi? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'était de savoir qu'est-ce qu'il y a comme possibilité d'intervenir pour les gens qui, vraiment, si c'est le cas, qu'on puisse intervenir à ce niveau-là. Parce que, on le sait, on entend régulièrement qu'il y a des taxis qui prennent les malades, qui les conduisent en interne d'hôpitaux en hôpitaux. Je pense que là, il y a un contrat en place avec certaines sociétés.
Non.
Et est-ce que ces sociétés ont l'avantage prennent l'avantage par rapport aux sociétés extérieures de véhiculer les malades à leur domicile en fin d'hospitalisation, non, par exemple?
Ouais. Ouais. Merci pour votre question. Je vous laisse répondre.
Une remarque sur les taxis pour les transferts d'hôpitaux. Une information de la CNAM. Les transferts d'hôpitaux ne sont plus pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. C'est géré par les budgets hôpitaux. Donc, c'est des sociétés sous contrat qui font les transports entre les hôpitaux, ainsi que les consultes externes de l'hôpital. Ce qui part de l'hôpital et qui part moins de 48 heures et revient vers l'hôpital. C'est géré par l'hôpital qui envoie le malade et c'est elle qui règle l'ambulance, le taxi ou le VSL sous contrat. Voilà. Mais en aucun cas, ce n'est pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Merci. Quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose pour répondre à la question de monsieur? Et après, je fais circuler le...
Effectivement, le problème qu'on a, c'est que...
De façon assez concise, parce que, encore une fois, on est pris un peu par le temps.
De façon Merci. Assez concise, effectivement, les CPM, comme vous devez le savoir, chaque directeur de CPM et son conseil d'administration, on peut adapter un petit peu ce qui se passe dans leur département. Chez nous, effectivement, les transferts entre hôpitaux sont toujours pris en charge et on peut toujours le faire. Et effectivement, ils sont pris en charge et remboursés par les caisses d'assurance maladie. Alors ça, c'est un premier point. Non, il n'y a pas de contrat dans notre département et en règle générale, normalement, il n'y a pas de contrat. Par contre, Ce que je remarque, c'est que ces transferts se font souvent hors heure ouvrable, parfois le vendredi soir, parfois le week-end, et que la majorité des entreprises d'ambulance, pour éviter de payer des heures supplémentaires ou des heures en, je veux dire, plus chères à leurs salariés, refusent ce genre de transport. Et ce sont souvent des entreprises de taxi qui sont là, disponibles H24, qui les font. Voilà. Ouais. Donc là aussi, on a un avantage par rapport aux véhicules sanitaires légers, c'est que nous, il n'y a pas de problème si on vous appelle le soir à 20h, si vous êtes un professionnel, vous allez prendre la course et vous allez le faire. Et le coup suivant, on vous rappellera. Voilà.
Ouais. Alors, je passe. Voilà, monsieur m'a demandé, monsieur ensuite.
Oui, Yves Salot, vice-président FTI 86, secrétaire FRTI Poitou-Charentes. Je voudrais demander à tous nos syndicats nationaux de se grouper une bonne fois pour toutes pour faire sortir le tarif TAP. On a beaucoup de problèmes de concurrence parce que les indices qu'on est plus cher, on est moins cher. Et suivant ce que disent les caisses, eh ben on appelle plus ou moins les ambulanciers parce que soi-disant qu'ils sont plus chers. Je suis un ex-ambulancier, je sais que c'est pas vrai. Hein. Mais attendez, pourquoi on n'a pas encore notre tarif TAP ? À vous de jouer les syndicats nationaux, parce que nous, au niveau régional ou au niveau départemental, on ne peut rien faire. Ça ne peut se faire qu'au niveau national.
Oui, une réponse à mon collègue de la FTI. Par contre, tu sais très bien que les forfaits sont interdits pour l'instant. Le forfait taxi facturation, c'est malheureusement interdit. Je te donne raison sur le principe, j'ai pas dit voilà, mais voilà quoi. Donc il faudrait d'abord que les fédérations nationales, comme tu le dis bien, fassent changer cette loi et que l'on puisse pour le TAP faire du forfait au kilomètre ou je sais pas en intramuros, en après voilà, selon le nombre de personnes à plus ou moins 20 000 personnes ou voilà. Après, voilà.
Monsieur Aurel, vous voulez intervenir aussi sur cette question.
Personnellement, un tarif spécifique TAP, pourquoi ? Nous sommes taxi, nous sommes munis d'un compteur euro-kilométrique. À quoi sert d'aller chercher midi à 14h ? Nous avons un tarif, c'est un tarif qui est réglementé, qui est préfectoral. Travaillons avec notre compteur. Effectivement, après les négociations par rapport aux caisses concernant les remises qui ont été consenties, qui sont exorbitantes pour certains et beaucoup moindres pour d'autres, mais arrêtons de dire un tarif spécifique TAP. Sinon, ce n'est pas la peine de grouper ça. Si on veut faire que du TAP, on passe un diplôme et on se met ambulancier. Je pense que ici, nous sommes là pour parler du taxi et de la problématique taxi. Le transport de maladati, c'est une partie de notre activité, mais ce n'est pas l'intégralité de notre activité. Même pour certains, malheureusement, c'est l'intégralité. Nous devons jouer sur le fait que nous sommes taxi. Nous avons des appareils de mesure homologués. Cette année, le gouvernement nous gratifie de 2000 euros supplémentaires de dépenses pour se mettre en conformité avec les taxes sorties, qui seront l'imprimé. Il manque le compteur et le lumineux. Donc, ne cherchons pas midi à 14h, n'ayons pas besoin d'avoir de tarifs spécifiques TAP, travaillons au compteur, travaillons uniquement au compteur.
Ouais, une remarque, et où est-ce que je donnerai raison à mon collègue, c'est que dans son département, il est majoritaire d'adhérents par rapport au nombre d'artisans et en fait on est tous plus on est nombreux pour aller négocier quoi que ce soit, du taxi, du scolaire, du malade, du peu importe, on pourra négocier. Mon collègue a 250 adhérents dans son département sur 480, si je me trompe, je veux dire, voilà. Donc il a pu négocier et il a une des meilleures conventions de France.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je voulais juste ajouter que c'est un faux problème, parce que chez nous, en Lorraine, 100% des ambulanciers ont des taxis. Donc, selon la tarification, selon la course, si c'est une course de ville, si c'est une course avec des kilomètres, ils privilégient un véhicule et pas un autre. Donc, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de la sécurité sociale par rapport au VSL et au taxi, mais c'est complètement faux. Nous, on est dans notre, comme il vient d'être dit, on est dans notre réglementation, nous avons un compteur, nous avons un arrêté préfectoral. qu'on uniformise nos remises pour la Sécu, ça, tout à fait d'accord. Maintenant, le reste, le VSL, bon, c'est tout, quoi.
Monsieur Gabay, rapidement, vous vouliez dire quelque chose? Non. Parce que j'ai beaucoup de demandes, monsieur Collard.
Oui. Je me présente, je suis monsieur Collard, je suis un des responsables de la FFTP, et c'est par rapport à ce qu'a dit un collègue pour le TAP. Alors, je vais dire quelque chose que vous ne savez pas, puisque moi, j'ai participé en 2000 et pendant 4 ans, avec la CNAM à des réunions concernant justement le TAP. Ce que vous ne savez pas, c'est que à l'époque, il y a seulement 10 ans, c'est pas vieux, on a échappé à une grosse catastrophe. Vous ne savez pas, c'est que la CNAM avait décidé de créer des véhicules TAP. Je parle pas de tarif, je parle des véhicules TAP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui n'était plus taxi pouvait aller s'inscrire à la chambre de métier, chambre de commerce. Avoir un véhicule, ce véhicule il mettait la couleur verte comme était prévu par la CNAM. Il y avait même de prévu un lumineux. Moi je suis taxi aussi, donc je sais de quoi je parle. Un lumineux vert, il n'y avait pas de tarif, il n'y avait pas de couleur, mais il était vert. Et il était prévu que ce n'était plus les taxis qui auraient fait ce travail. C'était plus les ambulanciers, mais c'était n'importe qui s'inscrivait à la chambre de métier, à la chambre de commerce, et qui devenait entreprise TAP. C'est-à-dire qu'il allait faire du transport de malades assis. Donc, on a échappé les taxis ruraux, entre guillemets. Moi, je suis taxi citadin, mais mes amis, les taxis ruraux, ils allaient mettre en 2000 la clé sous la porte. Et parce que les trois fédérations, la FNAT, la FNTI et la FFTP, on s'est battus comme des chiens, qu'il n'y a pas eu existence de ce véhicule. Donc, je peux vous dire qu'actuellement, il est surtout pas question de dire qu'on va mettre un tarif TAP. Je vais rejoindre ce que disait monsieur Grel, le collègue. On est taxi. Restons taxi avec notre taximètre. Bonté, bonsoir. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai participé à la CNAM. On leur a fait avaler. C'était difficile. On a eu 4-5 réunions là-dessus. On leur a dit, on est taxi, on travaille au taximètre. La CNAM ne voulait pas. On leur a dit, on travaillera comme cela. Et finalement, la CNAM, devant la force des trois fédérations, elle a dit, bon, mais écoutez, c'est vrai, vous allez travailler au taximètre. Il n'empêche qu'il y a certains directeurs de CPAM, et j'en connais plusieurs, qui ont dit, on se fiche pas mal de ce que dit la CNAM, on va travailler au distancié. Eh bien, sachez, je vous le dis, sachez qu'on a une présidente de syndicat à Haute-Marne, qui a mis au tribunal la CPAM de Haute-Marne, et le tribunal va maintenant, ça a été reporté plusieurs mois, normalement ça doit se mettre en place, le procès doit avoir lieu en février ou en mars. Par rapport à cela, on va faire jurisprudence et on va faire savoir cela, parce qu'on est sûr de gagner. Il faut que les caisses primaires d'assurance maladie arrêtent de nous faire travailler comme ils l'entendent. On est taxi, respectons notre métier, c'est le taximètre, c'est pas autre chose. Et moi, puisque je tiens le micro, si vous me permettez encore 2 minutes, je participe aux réunions au ministère de l'Intérieur. Les taximètres que vous avez vus, les équipements spéciaux, on les dénonce. Actuellement, tous les adhérents des syndicats, des fédérations, vont recevoir une note pour leur dire, ne vous inquiétez plus de la date du 31 décembre 2011. Puisque, en fait, les installateurs, et je parle fort et haut, parce que je sais aussi qu'il y en a dans le salon, les installateurs disent, vous êtes en train de nous escroquer, on ne se laissera pas faire. Il faut que nos taximètres, que nous avons tous, et moi dans mon taxi, fonctionnent avec n'importe quel type d'imprimante. Il faut qu'on ne nous fasse pas avaler, parce que lorsqu'on a signé, et j'en suis responsable, nous avons signé le protocole d'accord, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, on n'aurait pas signé. Eh bien, nos valeurs patrimoniales d'autorisation ne valaient qu'un pet de lapin. N'importe qui allait s'installer à la chambre de métier, avait un véhicule, devenait taxi, n'avait plus besoin de faire de formation de taxi. Donc ça me fait hurler quand j'entends dire « arrose sur les fédérations qui n'ont pas bougé ». On a défendu votre beefsteak et je défendrai encore. Alors maintenant, pour les équipements spéciaux, je déborde un peu, excusez-moi. Eh bien écoutez, je conclue parce que c'est urgent, c'est important pour mes collègues. Donc, on a fait passer, il y a une semaine, en fait, au ministère de l'Intérieur, qui ne voulait pas nous écouter. En ce qui concerne les équipements spéciaux, refus de la date obligatoire du 31 décembre 2011 pour le changement des équipements spéciaux, tant que le taximètre ou le dispositif extérieur lumineux garde leur validité d'agrément. Je veux dire par là qu'il y a une marque, je ne veux pas la nommer par politesse, mais il y a une marque qui a un compteur, un petit compteur, qui a une validité jusqu'en 2016. Ils ont dit au gouvernement en 2012, on ne les répare plus nos compteurs, pour s'en mettre plein les fouilles. Et nous, on dit non, on n'en veut pas de ça. Donc, je vais passer, parce que par politesse, je vais rendre le micro, mais sachez que simplement, on a dit, maintenant, à la date de la fin d'année, on s'en fout complètement. Enfin, on l'a pas dit comme ça, on était poli quand même, mais moi, je vous le dis, on s'en fout complètement. Nous, on va pas s'occuper de ces équipements où ils vendent, parce que quand on a signé le protocole d'accord, il était prévu une augmentation, en fait, de coûts pour se mettre en conformité, entre 0 et 500 euros. Et maintenant, on nous dit 5 fois plus, 2500 euros. Non, mais on est quoi, nous? On est des vaches à lait ou quoi? Moi, je veux travailler avec mon taximètre de maintenant, qui a 12 ans. Je veux mettre une imprimante qui a 12 ans. On a dit au ministre de l'Intérieur, il y a 15 jours, écoutez, quand on prend un disque dur avec un ordinateur, un vieil ordinateur, on met n'importe quelle imprimante, on met le pilote et ça fonctionne. Qu'est-ce que vous voulez nous emmerder à changer notre taximètre? Il n'y a qu'à mettre l'imprimante et si ça fonctionne pas, on prend pas d'imprimante. On fait comme avant, à la main.
Merci monsieur pour cette intervention passionnée. Monsieur Grel, vous vouliez...
Oui, alors donc, au nom de la FNDT, j'aimerais remercier monsieur Jackie Collin qui aujourd'hui vient d'avoir une parole vraie et qui reconnaît, au moins une des fédérations reconnaît qu'ils ont été un peu abusés par ce protocole. Et donc la FNDT est fière de n'avoir jamais signé ce protocole quand on voit que les autres font marche arrière. Merci monsieur Collin. Et je demande à tous les sympathisants FNDT d'applaudir monsieur Collin.
Alors, une autre intervention dans la salle. Monsieur là-bas, je ne vous ai pas oublié.
Oui, bonjour à tous. Eddy, je suis taxi à Saint-Maximin dans le Var. Je suis intervenu hier. Je reconnais pas tous les intervenants aujourd'hui, mais je voulais déjà poser une première question à Didier Grogrel. Qu'est-ce qu'il vous faut pour être représentatif en tant que quatrième fédération nationale? Et puis j'aborderai ensuite un sujet qui me concerne au niveau du Var. Pour la question que j'avais abordée auprès de la CPAM, en l'occurrence le deuxième véhicule que j'aurais souhaité mettre en service pour le transport d'handicapés. La réponse qui m'a été donnée par la directrice de la CPAM du Var était très simple. Nous n'autorisons plus dorénavant aux taxis d'avoir un deuxième véhicule agréé en tiers payant pour faire du transport d'handicapés. Et cela résulterait du protocole d'accord que vous avez conclu en 2008. Qu'en est-il exactement ?
Alors, le protocole d'accord conclu en 2008, la FNDT n'a rien à voir avec ce protocole. Ça, c'est là. Je réponds tout de suite à votre deuxième question, puisque nous l'avons toujours dénoncé, nous ne l'avons pas signé. Concernant notre représentativité dans les différents ministères, il ne faut pas écouter ce que tout le monde dit. La FNDT est reconnue à part entière dans les ministères. Simplement, la FNDT n'est pas associée à toutes les mesures qui concernent les discussions liées au protocole, puisque la FNDT refuse, a toujours refusé de signer le protocole. Il est vrai que lors de la première année d'existence en 2008, la FNDT, par ses concurrents, entre guillemets, a été désingué. C'est vrai que la première année, nos entrées n'étaient pas faites dans les ministères. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons des contacts avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère de la Santé. Si certains ont lu le rapport Essartier, ils verront que le nom de la FNDT ressort sur ce rapport. C'est donc que nous sommes consultés quand même, comme toutes les autres organisations professionnelles. Simplement, au jour d'aujourd'hui, nous ne nous mettons pas à table avec les autres concernant les mesures du protocole. Parce que nous estimons que de toute façon, ça aurait été une mascarade, puisque le protocole qui a été signé, c'est un chèque en blanc signé au gouvernement. Maintenant, quand ils sont convoqués au sujet du protocole, c'est pour leur notifier les mesures qui sont prises. Il n'y a plus de négociation possible. Les négociations étaient avant la signature du protocole. Maintenant, c'est l'application du protocole. Donc nous, de toute façon, signer un protocole, on n'a jamais voulu le signer, nous n'étions pas d'accord. Nous pensons qu'il y avait d'autres méthodes. Bon, ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, l'heure, on n'est plus à la division. L'heure, on est au rassemblement. Il y a le feu dans la maison, il y a péril dans la demeure. Comme je l'ai déjà dit hier lors de mes interventions, la FNDT a écrit une lettre à ses trois autres partenaires pour demander qu'on se réunisse à Quinte, qu'on vérifie nos points communs. C'est sûr, on a des points de désaccord, mais on a quand même le point commun nécessaire qui est l'avenir de la profession de taxi. Pensez à tous les gens qui viennent d'acquérir des autorisations de stationnement, qui ont 10 ans de crédit sur le dos, qui savent pas si demain leur autorisation qu'ils ont achetée vaudront encore quelque chose. Si ça continue comme ça, demain, nos fonds de commerce, on ne les vendra plus. Donc, arrêtons nos clivages, discutons ensemble, voyons ce que nous pouvons faire pour faire avancer le Schmilblick et surtout pérenniser nos entreprises pour les 10 ans à venir. Si nous ne réagissons pas rapidement, demain nous sommes morts. Seule l'union pourra faire la force.
Merci. Je repasse la parole à la salle et ensuite je reviendrai vers la tribune puisque on s'achemine vers la fin de cette conférence pour des impératifs d'organisation.
Bonjour, je m'appelle Yann Lemaire, je fais part d'un des taxis de l'Essonne. Je reviens un petit peu au niveau de la CPAM, monsieur, où tout à l'heure vous disiez qu'effectivement il faut être très groupé pour se battre contre les CPAM et autres. Et je voudrais dire que nous, notamment, une des raisons qui a fait que nous avons pu avoir une des meilleures conventions, nous, en l'espace de 4 ans, on a eu 3 conventions. Donc on a eu le distancié, on a eu la première, c'était une remise de 8% avec domicile, etc. Puis on a eu un distancié et maintenant nous avons celle, on a l'approche. Dans un rayon de 15 km et on a 5% de remise, donc en Essonne. Ça s'est fait parce qu'effectivement notre syndicat, on est majoritaire au niveau du nombre d'adhérents par rapport à la majorité des taxis, c'est un fait, mais il y a aussi ce qui nous a quand même beaucoup aidé, c'est que la CPAM de l'Essonne avait fait une étude pour faire la différence, pour faire des économies soi-disant sur les taxis. Sur une course de 10 km, ils se sont rendus compte qu'un taxi coûtait 12 €, qu'un VSL coûtait 21 € et ensuite un ambulancier 70 €. Résultat des courses, quand le syndicat a été négocié bec et ongle les nouveaux accords, et ben c'était beaucoup plus simple. Pourquoi ? Parce que cette CPAM, qui avait cru faire une bonne analyse de la situation de tous les transports TAP qui se faisaient dans le département, ils se sont rendus compte que quoi qu'il arrivait, les taxis étaient les moins chers. Donc moi, ce que j'aurais comme conseil à donner aux différentes organisations régionales et départementales des autres départements, c'est de dire au directeur de la CPAM, faites une étude, sortez les chiffres et on discute après. Et je pense que vous aurez la même chose que nous.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais la seule chose, c'est que on a toujours le même souci. Plus on est nombreux, mieux ça ira. Et je déplore aujourd'hui ce que personne n'a dit depuis 2 jours, c'est que pour que l'on puisse discuter, il faut être toutes les fédérations nationales. Et je me rends compte, depuis hier matin, je cherche le stand, je l'ai pas trouvé. Il manque quelqu'un. Alors, est-ce qu'il négocie ? J'en sais rien et je rentrerai pas là-dedans, mais toujours est-il que encore aujourd'hui, ils ne sont pas là.
Je vous propose d'en arriver à la conclusion et je vais demander donc à chacun des participants autour de la tribune, ainsi qu'à monsieur Colin, qui m'excusera de ne pas l'avoir cité en début de séance, puisqu'il était prévu qu'il, de toute façon, intervienne. Il a fait partie de la préparation de cette tribune. J'ai donc demandé à chacun de dire quelques mots de conclusion, et quelques mots de conclusion, bien évidemment, portés vers l'avenir. On commence par monsieur, on va le faire dans le déroulé de la tribune, donc par monsieur Alonga.
Oui, donc comme j'ai dit au début, nous avons un beau métier. Nous sommes des professionnels du transport assis, nous sommes des personnes professionnelles, comme je viens de dire. Donc, on n'a pas de problème par rapport à notre activité, par rapport à la façon dont on effectue notre activité. Automatiquement, on se bat pour conserver ce que l'on fait et ce que l'on fait de bien. Alors, on n'a pas de doute à avoir par rapport à ça.
Conrad.
Oui, comme le discours que je tiens depuis le début et depuis 2 ans maintenant, n'attendez pas que l'autre travaille mal pour récupérer son boulot. Vous devez d'abord être bon et n'attendez pas sur l'autre. Ne critiquez pas dans le vide. La critique est toujours facile. Tous vos représentants donnent du temps, donnent de l'argent, donnent des week-ends, des soirs, enfin... Je vous laisse imaginer. Alors, si vous voulez critiquer, vous avez le droit. Mais dites pourquoi. Ne dites pas « vous êtes nul » sans dire pourquoi. Et si vous n'êtes pas syndiqué, ne critiquez pas ceux qui le sont non plus. Et n'attendez pas sur vos collègues syndiqués qu'ils vous renseignent sur des infos. Voilà. Merci et bonne rentrée.
Monsieur Gavet.
Alors, pour conclure, je vais reprendre un petit peu ce que disent mes collègues. C'est vrai que, déjà, n'oubliez pas que vos responsables syndicaux, quels qu'ils soient, eh bien, ils donnent énormément de leur temps pour essayer de vous défendre. Alors, si vous avez des critiques, effectivement, les critiques constructives sont les bienvenues. Et nous nous rendons compte que dans les réunions d'Assemblée Générale, on va dire que, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, si vous avez 40% de l'effectif total des adhérents à la Réunion, c'est déjà un record. Quand vous essayez de motiver les gens pour venir participer au conseil d'administration, pour prendre des responsabilités,
pour prendre droit au vote pour les évolutions du taxi, pour prendre part à l'avenir de notre situation. Et là, le désert complet, tout le monde regarde, joue la politique de l'autruche, met la tête dans le sable et attend que ça passe. Alors, battons-nous, battez-vous, venez vous inscrire à des organisations professionnelles, ça c'est la première chose, et participez. Si vous ne faites rien et que vous restez dans l'individualisme, nous sommes condamnés à moyen terme. Ce serait le mot de la fin.
Monsieur Grel.
Que dire à tout ça? Oui, bon, on va dire, c'est pareil, utilisons les bons termes. Syndicat fait peur, syndicat égale politique. Le taxi se veut apolitique, donc nous sommes des organisations professionnelles, avant tout. Donc, les représentants de ces organisations professionnelles sont donc des animateurs, mais ce sont les adhérents qui ont le pouvoir. Donc, par le biais de vos adhésions, c'est vous qui avez le pouvoir. Donc, pensez-y, si vous voulez que ça change et que vos dirigeants ne vous plaisent pas, changez tout simplement vos dirigeants.
Monsieur Félix ?
Ben moi aussi, comme mes collègues, je voudrais encourager tous les artisans taxis à se syndiquer et les mettre en garde aussi de surtout ne pas sous-traiter avec ces grosses entreprises que nous connaissons bien, les laisser se débrouiller tout seuls et en fait ne pas se faire absorber par ces grosses entreprises.
Monsieur Charles.
Oui, ben tout simplement, venez voir les assemblées générales comment ça se passe déjà au départ et vous jugerez sur pied de vos syndicats. Mais tant que vous ne viendrez pas dans les salles d'Assemblée Générale, ne vous plaignez pas de vos syndicats.
Monsieur Collin, je vous laisserai le mot de la fin et ensuite je conclurai.
Oh, c'est très court. Simplement, ne vous fiez pas à la date. Je vous le dis parce que vous êtes taxi comme moi. L'histoire de la date 31 décembre 2011, c'est terminé. On va attendre qu'il y ait de nouvelles propositions commerciales et vous verrez qu'elles vont arriver par rapport aux constructeurs.
Écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous remercie vous également en tant que participant. Je vous informe que d'ici un petit quart d'heure, il y aura le tirage de la tombola et notamment avec divers lots, dont la voiture. Et je vous propose, parce qu'effectivement, vous avez des représentants qui passent beaucoup de temps pour défendre vos intérêts, qui ont passé beaucoup de temps également et ont mis beaucoup de cœur à préparer et à animer cette conférence. Et je vous remercie par avance de bien vouloir les applaudir. Merci.